Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble pendant deux heures au programme de l'info, bien sûr, du débat, mais aussi de l'opinion. Avec vous, chers auditeurs, vous avez la parole, vous le savez, au 32-10 à partir de 13h. D'abord, notre journal avec à la une le pouvoir d'achat, la santé et le climat. Après un séminaire gouvernemental ce matin, Elisabeth Borne a fixé les trois urgences auxquelles ces ministres doivent immédiatement s'atteler. Comme si de rien n'était, ou presque, au Texas, à quelques heures de voiture de Uvalde, où 21 personnes ont été abattues dans une école primaire mardi, dont 19 enfants, eh bien le lobby pro-armes débute sa convention annuelle aujourd'hui. 1 million de kilomètres au compteur, Fabrice et sa Peugeot 307 de retour à Sochaux pour passer ce cap. Incroyable histoire que nous vous raconterons et passion de ce conducteur. Juste après, comme chaque jour, vous le savez, on échange, on décrypte, on débat sur deux sujets. Nous parlions du Texas il y a quelques instants. Le mari de l'une des enseignantes tuées n'a pas survécu. Son cœur s'est brisé. Il s'est arrêté et ce n'est pas une simple image. Nous serons avec une cardiologue pour en parler. Et puis les excuses du patron de Ferrero en France, mais aussi en Europe. De nombreux cas de salmonellose ont poussé le fabricant à faire de très gros rappels de produits. Est-ce que cela sera suffisant pour rétablir la confiance avec les consommateurs? Odile Pouget sera avec nous. C'est également la question du jour sur RTL.fr. Continuez-vous d'acheter des chocolats Kinder? Vous dites oui à 14% à peine, non à 71%. La météo, bonjour Claire Delorme.
Agnès, bonjour à tous.
Côté ciel, c'est très calme cet après-midi, Claire.
En effet, un temps très calme et sec avec une classique France coupée en deux, donc à savoir un dégradé nuageux pour les régions situées au nord de la Loire, davantage d'éclaircies au sud, mais quand même un petit bémol entre Corse et continent où le ciel est un petit peu plus menaçant, n'est pas à l'abri d'une petite averse là encore en fin de journée avec un mercure stabilisé en moyenne entre 20 et 23 degrés.
Merci beaucoup Claire et à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Moins d'une semaine après leur nomination au gouvernement, les ministres étaient convoqués aux aurores ce matin pour un séminaire à Matignon. Une réunion de travail durant laquelle Elisabeth Borne a distribué les feuilles de route, William Galibert, et a surtout envoyé un message très clair. Tout le monde au travail.
Oui, d'où ce rendez-vous à 8h30 pétante, un vendredi en plein pont de l'Ascension. Bon, on a vu un peu de flottement pendant cette première semaine. Alors Gérald Darmanin commence à faire ses propres propositions sur le permis de conduire. Le cas d'Amien Abad a pas mal occupé les esprits, donc pas besoin de décodeur pour comprendre le but de cette réunion. Un, on est au boulot, je vous le prouve. Et deux, n'oubliez pas que la patronne, c'est moi. Bien sûr, elle ne le dit pas comme ça. Elisabeth Borne, venue sur le perron, lire un message face à un micro placé un petit peu trop haut pour elle.
J'ai donné à mon gouvernement trois mots d'ordre, rapidité, efficacité et résultat. J'y tiens et nous ferons collectivement un suivi continu de notre action.
Pouvoir d'achat, santé, climat, voilà les priorités affichées, mais aucune annonce pour le moment. Rien avant 15 jours pour aider les services d'urgence hospitaliers, rien avant l'été pour le pouvoir d'achat avec une loi à l'Assemblée. Par contre, il va falloir s'habituer à ces réunions au saut du lit à Matignon. Désormais, il y en aura une tous les mois.
William Galibert du service politique de RTL. Et parmi les autres priorités affichées, celle du nouveau ministre de l'Éducation nationale. Pape Ndiaye a d'ailleurs fait ses premiers pas cette semaine en recevant les représentants syndicaux. Il a esquissé sa méthode, Marie Guerrier, a tenté de rassurer, mais il va devoir agir rapidement.
Une première prise de contact sincère, franche et utile, dit Benoît Test de la FSU, premier syndicat des enseignants.
On sent que Pape Ndiaye prend la mesure de l'ampleur des sujets. Ça tranche avec la période précédente où dès qu'on avait un désaccord, tout montait dans les tours très rapidement. Il y avait une forme d'hystérisation des débats.
Bruno Bobkiewicz pour le SNPDEN, UNSA, était porteur des interrogations des chefs d'établissement.
Le ministre a dit qu'il ne serait pas le ministre du chamboule-tout.
Il y a la volonté de construire une feuille de route assez claire et de nouer des relations régulières et étroites avec les organisations syndicales.
syndicale.
Pap Ndiaye essaie de restaurer la confiance, note le SGEN CFDT. Au SNES, Sophie Venetite constate aussi le changement.
Il a dit qu'il voulait imprimer un style, mais dès qu'on est rentré dans le vif du sujet, ben là, on n'a pas eu de réponse claire. Il va vraiment falloir que le ministre passe très vite des paroles aux actes, qui dépassent le symbole de la rupture avec Jean-Michel Blanquer. On a demandé à ce que les discussions s'ouvrent dès la semaine prochaine.
Sur le retour des maths dans le tronc commun au lycée, sur le recrutement des profs supplémentaires pour la rentrée ou encore sur la revalorisation des salaires. FO regrette déjà que le ministre refuse de revenir à l'ancien bac. Le SNALC prévient « Nous sommes imperméables à la câlinothérapie. Nous ne nous fions qu'aux actions, aux textes et aux chiffres, notamment ceux en bas à droite des fiches de paye. »
Le reportage de Marie Guerrier pour RTL. Les Français vivant à l'étranger et inscrits sur les listes électorales consulaires ont commencé à voter par Internet il y a une demi-heure exactement pour le premier tour des élections législatives. Ils ont jusqu'à mercredi prochain pour choisir leur candidat. Cela fait trois jours seulement que 19 enfants ont été abattus dans leur école primaire du Texas avec deux de leurs enseignantes. Malgré le choc, le chagrin, le principal lobby pro-armes américain a prévu de tenir son assemblée annuelle à Houston ce week-end, comme si de rien n'était, à quelques heures de route à peine de Uvalde. Des manifestations sont prévues. Le candidat démocrate au poste de gouverneur du Texas, Beto O'Rourke, a prévu d'y participer. C'est lui d'ailleurs qui, à la sortie d'une réunion en public, a accusé son adversaire, le républicain Gary Abbott, d'avoir une très grosse part de responsabilité dans cette tuerie.
Ces enfants sont morts parce que le gouverneur du Texas, l'homme le plus puissant de cet État, a choisi de ne rien faire. Il s'est rendu au lycée de Santa Fe après une tuerie dans des salles de classe. Il a dit aux parents qu'il ferait quelque chose, il n'a rien fait. Il est venu dans ma ville d'El Paso quand 23 personnes ont été massacrées. Il a dit qu'il ferait quelque chose, il n'a rien fait. En fait, la seule chose qu'il ait faite, c'est de rendre plus facile l'achat d'une arme, de faciliter le port d'armes en public. Il se vante qu'il n'y ait aucune vérification des antécédents, aucun entraînement, aucun contrôle. Si nous ne faisons rien, nous verrons toujours cela année après année, école après école, gosse après gosse. Ce gamin qui venait tout juste d'avoir 18 ans a acheté un AR-15 et l'a amené dans une école primaire pour tirer une balle dans la tête des enfants. Pourquoi nous laissons faire dans ce pays ?
Des propos traduits par Morad Jabari. Sachez que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé sa venue à la grand-messe du lobby pro-armes. Grand-messe qui débute donc aujourd'hui à Houston, au Texas. 93e jour de guerre en Ukraine et une offensive russe qui redouble d'intensité dans l'est du pays, dans le Donbass. Les combats sont toujours très intenses à l'heure où l'on se parle, Bénédicte Tassard.
Oui, alors écoutez déjà l'intensité des tirs derrière ce soldat ukrainien qui était en train de se filmer en selfie, c'était hier, dans la forêt de Liman. Ça, c'était donc hier. Et depuis, les Russes ont conquis Liman. Les séparatistes pro-russes appuyés par l'armée de Moscou l'annoncent. Et c'est confirmé par les soldats ukrainiens qui se sont repliés derrière la rivière après avoir fait exploser le dernier pont qui permettait de sortir de la commune. Liman, c'est une petite ville, c'est 20 000 habitants environ. Mais c'est stratégique parce qu'elle ouvre la route vers deux grandes villes du Donbass, dont Kramatorsk, la capitale de ce qui reste du Donbass ukrainien. Liman, dans le nord de la région, Severodonetsk à l'est, et là, les quartiers résidentiels sont pilonnés sans arrêt. Les habitants ont oublié ce qu'est un cessez-le-feu d'une demi-heure, publie sur Telegram le gouverneur de la région. 5 morts la nuit dernière à Severodonetsk. Les Russes avancent, c'est vrai, très difficilement. On ne sait pas jusque quand ils pourront tenir le rythme. Il est trop tôt pour dire si cette progression est durable. Irréversible.
Merci beaucoup Bénédicte Tassard, la chef du service étranger de RTL, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse le Kremlin de mener un génocide dans le Donbass. RTL, il est midi 39. 100 000 supporters espagnols et anglais sont attendus à Paris ce week-end pour la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France demain soir. Gros dispositif de sécurité évidemment pour l'occasion. 6 800 policiers et gendarmes mobilisés. Les supporters ont interdiction d'aller sur les Champs-Élysées jusqu'à dimanche 18h. Ceux qui n'ont pas de billets pourront se rendre en revanche dans leur fan zone. Pour les fans de Liverpool, ça se passera cours de Vincennes, dans le 12e arrondissement de la capitale. Sarah Loubacouche.
C'est un long rectangle d'un kilomètre de long, clôturé de grillages qui entoure le cours de Vincennes. Pour les riverains, c'est une surprise.
Je n'étais pas au courant, j'ai vu qu'il y avait des grillages partout dans le quartier. Je ne savais pas pourquoi. D'accord, la fan zone de la Ligue des Champions. Bah, merci, au moins je saurais ce que c'est.
Chez les commerçants, on sourit un peu moins. Pour accueillir les supporters anglais, la zone sera fermée à la circulation, impossible de se garer. Marco sait donc déjà que la journée sera mauvaise pour sa pizzeria.
Ça m'inquiète pour mes clientèles. Là, ils m'ont déjà annoncé qu'ils ne viendront pas samedi.
Avec 50 000 personnes attendues dans la fan zone, si Abdel espère faire un bon chiffre dans son bar, il craint les débordements.
On aura des clients, j'espère, s'ils font pas de casse. S'ils commencent à boire à partir de 14h ou 15h, à 21h, dans quel état ils vont être, je sais pas.
Même s'ils boivent chez vous, ça vous fait pas plaisir?
Si, mais ils auront des gobelets, ils n'auront pas de verre, parce qu'ils pourraient qu'ils me lancent les verres.
Vous avez peur un peu des débordements?
Ouais. Quand même, pour les vitrines surtout.
En tout, ce sont 6800 policiers et militaires qui seront déployés pour sécuriser l'événement sur l'ensemble de la capitale.
Le reportage de Sarah Loubacouche, Liverpool-Real Madrid, avant de suivre la finale de la Ligue des Champions sur notre antenne demain soir. Nous en parlerons évidemment dans RTL Foot dès 20h avec le service des sports. 1 million de kilomètres au compteur de sa Peugeot 307. Joli clin d'œil pour l'occasion. Fabrice a prévu de rallier Sochaux aujourd'hui pour aller fêter l'événement avec des membres de l'équipe qui, écoutez bien, ont assemblé son véhicule en 2016. Alors la question c'est, où en est-il à l'heure où l'on parle, midi 41?
Alors concrètement, on est à 999 689 là tout de suite. On vient de partir de l'usine de Trémerie, là où a été fabriqué le moteur. On a eu la chance de voir tout le circuit de production. Donc c'est Noël avant l'heure pour moi. Et puis surtout, j'ai rencontré les gens. Ah, ils étaient très surpris et évidemment, ils avaient absolument envie de voir dans quel état était ce qu'ils avaient mis en place en 2006. On a ouvert le capot ensemble, effectivement, et ils ont regardé les pièces pour savoir dans quel état c'était. Évidemment, hein, la curiosité naturelle, on est tous pareils. Ça a été un moment, franchement, ça a été un moment très émouvant, très émouvant.
Et c'est pas fini, hein. on va le joindre tout au long de la journée jusqu'à ces 1 million de kilomètres au compteur, Fabrice, qui répondait à Yannick Holland. On fait une pause et dans un instant, nous revenons sur les excuses du patron France de Ferrero après l'affaire des Kinder, hein, qui ont rendu 81 enfants malades en France.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Dans la nuit, elle est venue se coucher auprès de nous et elle était brûlante. Et elle a couru aux toilettes. Ses selles, c'était du liquide, quoi, comme de l'eau. Et elle a vomi. Le lendemain, rebelote, fièvre. Je l'ai pesée et cet épisode lui a fait perdre pratiquement 1 kilo.
En France, ce sont 81 enfants qui ont été malades après avoir mangé des Kinder Surprise, Chocobon ou encore Mini Egg. Après ce scandale sanitaire, le patron France de Ferrero s'explique pour la première fois. Il a pris la parole dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Un mea culpa donc face au lecteur hein, du journal. Il présente très très clairement ses excuses, hein, le patron.
Oui, Nicolas Nekoff, directeur général de Ferrero pour la France, se dit désolé. Il va le répéter plusieurs fois au cours de l'entretien, en présence notamment de la mère d'un petit garçon contaminé ou d'un patron de supermarché qui a vu ses clients fuir les rayons Kinder. Je suis venu vous dire que ce qui s'est passé n'est pas acceptable, assure-t-il, avant de rappeler au passage qu'il est lui-même père de 4 enfants. On est désolé, je suis désolé.
Et on en sait plus désormais sur l'origine de la contamination.
Oui, le patron de Kinder révèle que d'après les enquêtes menées par ses services, la contamination proviendrait d'un filtre situé dans une cuve à beurre laitier de l'usine d'Arlon en Belgique où étaient produits tous les chocolats incriminés. La salmonelle, selon lui, est arrivée soit par des matières premières contaminées, soit par des personnes. Nous faisons des tests tous les jours. Comment expliquer que des protocoles stricts qui fonctionnent depuis 75 ans n'ont cette fois pas marché? L'enquête devra le dire. Est-ce qu'il y a eu défaillance? Oui, c'est très clair. Est-ce qu'il y a eu négligence? Non, répond avec assurance le directeur général de Ferrero.
Alors, cette usine en Belgique, Odile, doit rouvrir ses portes.
Oui, elle a été mise à l'arrêt le 8 avril dernier. Elle devrait rouvrir le 13 juin. C'est en tout cas ce qu'a demandé le groupe industriel. Les autorités sanitaires belges n'ont pas encore donné leur feu vert. Nicolas Nekoff indique que 1000 salariés de l'usine travaillent 7 jours sur 7 à cette remise en route. Il parle de 10 000 pièces qui vont être démontées et nettoyées une par une. Il parle également de la création d'un sas de décontamination pour les employés, mais il annonce surtout que dorénavant, 50% des tests seront réalisés par un laboratoire extérieur indépendant, alors qu'auparavant 100% des contrôles étaient faits en interne par Ferrero. C'est ce que demandaient des associations de consommateurs comme Foodwatch. Pour elles, c'est justement parce que les contrôles étaient faits en interne que de telles dérives ont pu se produire.
Alors, présenter ces excuses, c'est bien, mais concernant les personnes qui ont été intoxiquées, un dédommagement est-il prévu ?
Oui, alors pour les 81 familles d'enfants contaminés, il y aura, le PDG l'assure, une réparation financière. Parmi ces familles, il y a Elodie, maman d'un petit garçon de 18 mois à l'époque, contaminé après avoir mangé un chocolat. Il avait souffert plusieurs jours d'une forte fièvre, de diarrhée, de vomissements. Nous l'avons contacté ce matin. Jusqu'à présent, eh bien, ce dédommagement, elle n'en a pas vu la couleur.
Alors nous, on a été sur le numéro vert qui disait d'appeler, qui n'a jamais fonctionné pendant très longtemps. On a envoyé un mail aussi sur leur Kinder contact et tout ça. Et on est aussi passé par Facebook pour les avoir. La dame s'est excusée et en nous disant qu'effectivement, il y avait eu un dysfonctionnement. C'était tragique pour mon fils, que c'était pas normal qu'il y avait eu un souci, que la société s'en excusait et ça s'arrêtait là. Kinder n'a rien proposé pour nous. Et ils n'ont jamais été en lien puisqu'ils n'ont jamais repris de nouvelles. Le PDG dit qu'ils sont en relation avec les familles pour se présenter des excuses, les dédommager. Bah, c'est pas notre famille qui est concernée. Nous, on a été touchés, on a eu le courrier du médecin, on est passé par les urgences. Et il a perdu 40% de son poids, lui qui est déjà pas épais. On a vraiment, nous, notre fils a pris à risquer l'hospitalisation alors que c'était juste un chocolat.
Voilà, pour Elodie comme pour les 80 autres familles, eh bien le patron de Ferrero assure qu'il y aura pourtant bien réparation financière de leur préjudice. Le montant sera apprécié au cas par cas en fonction de la durée d'hospitalisation, s'il y en a une, de la présence ou non de séquelles. Le PDG assure être déjà en lien avec plusieurs dizaines de familles. Celles qui ne se sont pas encore signalées peuvent le faire sur une plateforme dédiée sur le site de Ferrero.
Alors c'est intéressant, la question du jour sur le site rtl.fr, Odile, c'était continuez-vous d'acheter des chocolats Kinder. Nos auditeurs disent oui à 14% à peine, non à 71%. Alors, opération transparence de la part du patron France de Ferrero, opération mea culpa. On imagine bien que l'objectif, c'est également de restaurer la confiance avec les consommateurs, car l'image de la marque en a pris un sacré coup.
Oui, alors 40% de chiffre d'affaires déjà perdu à Pâques, 3000 tonnes retirées du marché, des millions d'articles détruits. Nicolas Nekoff évoque la perte de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça, c'est pour le côté financier, mais ce n'est pas le plus important. Depuis que l'affaire a éclaté, on estime que 60% des consommateurs n'ont plus confiance dans la marque. Pour tenter de faire revenir les clients, retisser le lien, ce sont ces termes. Le patron de Kinder avance deux maîtres mots, transparence, écoute. Le groupe promet d'ouvrir les portes de ses usines, de diffuser des vidéos sur la sécurité alimentaire, de développer une plateforme dédiée aux consommateurs. Des équipes vont également partir cet été le long des côtes, dans une vingtaine de stations balnéaires, à la rencontre des vacanciers pour comprendre leurs attentes. On verra si tout cela s'avère suffisant.
Ça va être très intéressant à suivre en tout cas. Merci infiniment Audit Pouget du service qualité de la vie de RTL. On fait une pause et ensuite nous passons à notre deuxième débat. Avoir le cœur brisé, ce n'est pas simplement une expression, une image, ça existe vraiment. C'est un syndrome médical et nous en parlerons tout de suite donc avec une cardiologue.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon.
Hier matin, Joey Garcia est allé au mémorial dédié aux 19 enfants et deux adultes tués dans la fusillade. L'homme de 50 ans y a déposé des fleurs au pied de la croix portant le nom de sa femme. Ce fut son dernier geste. En rentrant chez lui, il a eu une crise cardiaque. Les secouristes n'ont pas pu faire repartir son cœur brisé.
Ce matin, Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis, nous racontait la mort de cet homme, le mari d'une enseignante elle-même tuée mardi lors de la fusillade du Texas. Cet homme est mort de chagrin. Son cœur n'a pas tenu. Bonjour Claire Mounier-Veillé.
Bonjour Agnès.
Vous êtes cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille. Le symptôme du cœur brisé, le takotsubo, ce n'est pas simplement une image, hein.
Non, c'est pas une image. En fait, c'est un terme japonais. C'est une cardiopathie de stress, donc une atteinte du muscle cardiaque qui n'arrive plus à se contracter correctement et qui est le plus souvent réversible. C'est la bonne nouvelle aussi avec le traitement adapté. Et ce cœur se paralyse par un excès de libération d'hormones de stress qu'on appelle les catécholamines suite effectivement à une charge émotionnelle très importante. Alors, je vous écoutais juste avant, c'est plutôt des femmes, hein, c'est plutôt 9 femmes pour un homme, mais cet homme dont vous parlez, ben, ça a été le 1 sur 10. Quoi.
Et qu'est-ce qui se passe véritablement dans le corps? C'est le choc? C'est le chagrin?
Oui, alors en fait c'est le chagrin qui va entraîner une réaction au niveau de notre cerveau qui régule le stress. Là, c'est un stress aigu, comme on dit. Donc il y a une libération brutale des hormones de stress qui vont aller agir sur les petits récepteurs au niveau du muscle cardiaque qui se retrouvent complètement paralysés. Et ça peut donner, comme ce monsieur, une mort subite. C'est la complication la plus grave par un trouble de rythme, donc une fibrillation ventriculaire. Mais heureusement, le takotsubo, c'est pas toujours ça. C'est aussi une douleur thoracique qui mime un infarctus du myocarde, parce que ce cœur, ça fait extrêmement mal. Ça peut être associé à de l'essoufflement, à des nausées, donc ça va mimer le plus souvent un infarctus du myocarde. Et parfois, malheureusement, l'arrêt cardiaque.
Et les symptômes, donc, sont vraiment, peuvent être confondus avec un infarctus?
Oui, on appelle ça le pseudo-infarctus du myocarde. Donc, c'est une urgence cardiaque, hein. Il faut vraiment appeler le 15 ou le 112, parce que le diagnostic se fera essentiellement une fois qu'on aura fait l'examen en urgence, la coronarographie, où on verra qu'il n'y a pas de lésion des artères du cœur. Et par contre, on verra ce cœur en forme d'amphore. Hein. C'est un piège à poulpe, en fait, le takotsubo. Et donc, ce cœur sera totalement paralysé, mais il va répondre au traitement de l'insuffisance cardiaque.
Et est-ce que l'on arrive à s'en remettre correctement? C'est long, pas long?
Alors, bien sûr, donc il y a une prise en charge aux urgences de quelques jours aux soins intensifs cardio.
Ah oui, quand même.
Ensuite, il y a un suivi. Ah oui, il y a un suivi ensuite cardiologique entre 3 et 6 mois avec de la rééducation. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, on récupère complètement la contraction de son muscle en 3 à 6 mois avec le traitement médical de l'insuffisance cardiaque. Et puis surtout, et ça c'est une action qui est forte pour éviter la récidive, que ça récidive dans quelques rares cas, eh bien il faut proposer une gestion du stress à ces personnes-là, une thérapie, si c'est possible. Et c'est vraiment très très important d'apprendre à gérer avec la cohérence cardiaque, la respiration, la sophrologie, la sieste. Donc avoir une hygiène de vie qui prévienne ce stress mental, en fait. C'est un stress mental.
Là, on parlait d'une personne. Alors effectivement, cela concerne un homme qui perd sa femme dans des conditions terribles, un deuil. Mais est-ce que ça peut également arriver dans, par exemple, un cas d'un chagrin d'amour?
Alors oui, alors mais après quand on a des parce que je suis aussi cofondatrice du fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, hein, avec Thierry Drillon, et on a des témoignages de femmes. Et en fait, il y a des femmes qui vous disent une rupture sentimentale, le mari qui s'en va, la perte d'un conjoint, mais il y a aussi des choses positives, par exemple une demande en mariage, un anniversaire surprise. Donc en fait, c'est l'aspect charge émotionnelle, positive ou négative, qui va déclencher cette libération d'hormones. Qu'on dit de stress, mais ça peut être aussi un stress positif.
Ah oui, d'accord. C'est vraiment l'émotion qui fait
c'est
que
l'émotion,
on ne la gère
pas. Positive ou négative, mais ça peut être aussi un stress physique. Par exemple, un cambriolage, un accident de voiture, une chirurgie, ben ce stress physique va déclencher en fait cette réaction d'alarme au niveau de notre cerveau qui déclenche cette libération d'hormones.
Et est-ce que l'on arrive à savoir si les personnes qui présentent ce symptôme-là sont des personnes plutôt stressées dans la vie ou effectivement un jour elles déclenchent cet infarctus, ce pseudo-infarctus?
Oui, alors vous avez, on peut effectivement dresser le portrait robot, entre guillemets, de la personne qui va faire un takotsubo. Donc c'est plus volontiers une femme, hein, 9 femmes pour un homme, plus volontiers des femmes ménopausées, parce qu'elles sont plus protégées par leurs hormones, des personnes qui ont une anxiété chronique. Et en fait, tout se passait comme si on avait un fond d'anxiété chronique, et le takotsubo, finalement, ça vous fait, c'est comme un tsunami. C'est le stress de plus, quoi. Le stress en plus qu'il ne fallait pas. Mais c'est sur un fond quand même d'anxiété, d'où la nécessité derrière l'accident de proposer un accompagnement thérapeutique avec un psychologue, avec un psychiatre, mais gérer ce stress chronique pour pas que ça revienne.
Et que faire justement pour gérer cette anxiété qu'on connaît plus ou moins
On est tous exposés au stress.
Exactement, hein. Ouais, exactement.
Bah en fait, c'est tout ce qui est déjà... on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est... on va utiliser la respiration, par exemple la cohérence cardiaque, parce que dans notre thorax, dans notre cœur, on a des petits récepteurs qui vont aller au cerveau. Donc, réapprendre à respirer tranquillement, la sophrologie, le yoga, couper la journée de ce stress avec une sieste, mais un temps de repos sans écran. Donc ça, c'est très important. Donc c'est agir sur le cerveau, par des actions mentales ou physiques. Et ensuite, l'activité physique aussi est très importante, puisque lorsque vous faites une activité physique, on recommande 30 minutes par jour classiquement, mais la marche rapide, tout ce qui est sport d'endurance, finalement, ça va permettre aussi de baisser le niveau de stress au niveau du cerveau. Ça, c'est très important. Et après, savoir aussi que nos comportements, entre guillemets, addictifs, le tabac et l'alcool sont de faux amis pour gérer son stress. Ils vont au contraire accentuer l'impact du stress sur cette libération d'hormones de stress.
Le Takotsubo, c'est pourtant un très joli nom en japonais. Le syndrome,
oui, c'est un très joli nom.
Ouais, le symptôme du cœur brisé. En tout cas, c'était très très intéressant de vous avoir,
oui,
Claire Mounier-Veillé.
Les gens peuvent aller voir sur le site d'agirpourlecoeurdesfemmes.com les témoignages. Et surtout, on a fait également une petite note de synthèse s'ils veulent avoir d'autres informations sur ce Takotsubo. Mais encore une fois, pour ne pas les affoler, c'est réversible. C'est rare et ça se gère très bien.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Claire Mounier-Veillé. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille. On fait une pause et dans un instant, c'est vous, amis auditeurs, qui avez la parole au 3210.
RTL Midi.